Ce matin, on commence une nouvelle série de prédications sur une lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul adressée à l'église de Thessalonique. Alors, l'idée derrière, pourquoi vous dites on commence par la deuxième ? Parce qu'il y a comme une première. L'avantage que vous avez, c'est que la deuxième reprend des thèmes qui ont été abordés dans la première. Donc, vous aurez limite deux épîtres en une. Ce qui s'est passé, c'est que Paul a écrit à l'église de Thessalonique une première fois, et quelques temps après, assez courtement, hein, on estime à peu près, des spécialistes, pas moi, estime à peu près 6 mois après qu'il a écrit la deuxième épître, parce qu'il a eu quelques infos intéressantes, et il s'est dit, il faut que je renvoie une deuxième lettre. C'est ce que nous allons voir à travers de 5 prédications à partir de maintenant. 5 prédications jusqu'à arrivera à fin juin. Peut-être que vous travaillez, mais vous n'êtes pas trop stimulé par votre boulot. Vous trouvez même qu'il est décourageant. Vous ne savez pas quoi faire. Vous dites, mais comment je vais pouvoir tenir ? Et certains se disent, ce qui m'aide à tenir, ce sont les prochaines vacances. Peut-être pour ça qu'on ne voit pas grand monde ce matin. Des fois, des gens, c'est comme ça. Et très souvent, j'écoute ça. J'attends les prochaines vacances. D'autres, peut-être, attendent impatiemment le retour du Christ. Et ils sont là. Et des fois, ils attendent tellement qu'ils ne font plus rien. C'est ce que nous verrons dans la dernière prédication. Ce matin, Paul nous invite et a invité les Thessaloniciens à rester fermes, à tenir bon, à voir plus loin, à voir le retour de Christ et pas attendre simplement les petites vacances. Cette lettre, et comme les autres lettres, elle respecte un cadre donné et vous avez sûrement fait attention quand vous lisez les épîtres. Il y a toujours une salutation, il y a toujours une prière de reconnaissance, il y a toujours une parole d'encouragement, une demande, une explication, et puis, enfin, il conclut la lettre, c'est moi, Paul, qui vous écris toutes ces choses par ma main, pas par la main d'une autre. Toutes les lettres sont construites comme ça. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que la prière qui est au début est construite à partir du vécu des personnes. Ce n'est pas une prière qui est générique. On pourrait dire, oui, alors fais-leur du bien, tout ça, blabla, amen. Mais Paul n'est pas comme ça. Il s'imprègne des personnes, il prend le vécu des personnes, il va prier pour en conséquence. C'est ce qu'on va voir ce matin. Voilà. Alors, c'est petit, je vais vous le lire, c'est que je laisserai afficher par la suite si jamais vous voulez revenir au texte. Mais c'était pour que vous ayez tout le texte sur une même slide, un même visuel. Je commence la lecture. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'Église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères. Et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et en chacun de vous, l'amour que vous portez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. Aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Ici, je laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne de ceux qui lui appartiennent et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Moi, je prie. Notre bon Père Céleste, nous voici encore devant ta parole. Nous voulons l'écouter, nous voulons t'écouter, nous voulons construire notre vie sur toi. Et je te prie que tu nous aides à rester ouverts, réceptifs à ton esprit. Amen. Voilà. Ce que nous allons voir ce matin, c'est comment construit Paul sa prière et comment il les encourage par sa prière. Premièrement, il les encourage en évoquant toute l'action de Dieu dans leur vie. Donc, c'est la reconnaissance de l'action de Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Il les encourage en leur rappelant une vérité sur Dieu, en leur remontrant pourquoi ils peuvent avoir confiance en Dieu. Il les encourage en priant pour eux. Et enfin, il les encourage en leur réexpliquant l'objectif de leur vie. Vous voyez, j'ai mis les parties en jaune, en alternance, pour que vous voyez un peu où on en est. La reconnaissance de l'action de Dieu. Paul ne remercie pas les Thessaloniciens. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il ne dit pas d'emblée, c'est bien ce que vous faites. Il remercie Dieu parce que Dieu agit en eux et les fait progresser. Il remercie Dieu parce que leur foi ne fait que progresser. Il remercie Dieu parce que leur amour les uns pour les autres ne fait que progresser. Et c'est Dieu qui fait tout cela en eux. Et Paul remarque l'action de Dieu dans leur vie. À un moment où les chrétiens de Thessalonique sont découragés, peut-être, en tout cas persécutés, Paul est en train de leur dire « Dieu agit dans vos vies. Dieu est avec vous. Soyez rassurés. » Et pour vous donner un peu le contexte de l'épître, l'église de Thessalonique a été, alors on peut dire ça dans toutes les épîtres, globalement, hein, mais découragée, persécutée par leurs concitoyens, par les autres habitants. Et si on fait référence au livre des Actes, on a Paul qui est allé à Thessalonique pour apporter la bonne nouvelle. Mais très rapidement, il a dû partir parce que, en allant prêcher la bonne nouvelle, il a été chassé. Il a dû partir. La personne qui les accueillait à Thessalonique, Jason, alors je ne pense pas qu'on dit Jason dans le contexte, hein, je ne sais pas comment on dirait d'ailleurs. Bon, en tout cas, Jason qui les accueillait, a été emmené devant un tribunal, devant les magistrats. Et les magistrats ont l'ont relâché qu'à partir du moment où il a payé une caution. Paul s'en va en secret, rapidement, de la ville de Thessalonique. Il part pour la ville de Bérée. Il continue son action d'évangélisation, de proclamation de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes gars de Thessalonique sont allés à Bérée dire « N'écoutez pas Paul. Il vient mettre le bazar dans votre ville. » Paul a dû à nouveau partir de Bérée parce que les gens de Thessalonique, quelque part, le poursuivaient pour pas qu'il annonce la bonne nouvelle. Mais quand même, il restait toujours cette église à Thessalonique. Alors on peut se douter un peu de la pression que ces personnes devaient avoir. Mais malgré toute cette persécution, l'apôtre est heureux de constater que malgré les difficultés, leur foi progresse. Les Thessaloniciens grandissent et leur foi va même de progrès en progrès. C'est assez stimulant, rassurant, encourageant quand quelqu'un vous dit ça. On constate que les chrétiens de Thessalonique ne se satisfont pas de leur foi présente. Ils veulent toujours aller plus loin, progresser. Ils sont dans cette dynamique. On veut progresser, on veut grandir avec Dieu, on veut mieux le connaître. Et malheureusement ou heureusement, comme vous voudrez, mais la persécution les oblige à prendre position, à être fermement établi ou non avec Dieu, à être fidèle avec Dieu ou non. Mais la persécution les encourage. On a vu avec Jason, c'était pas forcément a priori une persécution assez franche. C'était, on va un peu lui soutirer de l'argent, on va lui mettre une pression. On ne sait pas exactement le type de persécution. Mais il y a quand même une persécution, ou en tout cas une pression que les Thessaloniciens ont. Et le danger dans ce type de difficulté, c'est que la foi s'estompe. La foi, on la cache de plus en plus, parce que c'est, au bout d'un moment, c'est usant. On n'en peut plus. Et Paul veut les réveiller. Et je pense que c'est parfois pareil au boulot. Ce n'est pas toujours facile de vivre en chrétien quand les gens se moquent de vous. C'est gentiment, on rigole, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est fatigant de vivre en chrétien quand à chaque fois, on vous dit « tu ne sais pas t'amuser ». C'est fatigant de vivre en chrétien quand il y a un poste qui vous intéresse, mais qu'il faut remettre un peu de côté votre éthique pour y arriver. C'est fatigant. Et Paul les rassure, ou les encourage plutôt. Ne baissez pas les bras, tenez ferme. J'ai expérimenté un peu ce type de fatigue. J'ai exercé un travail un peu d'agent de sécurité. Et le milieu est assez brutal. On y va au contact, on y va, on tape, on rigole pas, on discute pas. Et moi, quand je voulais faire certaines fonctions, on me disait facilement, ou on me le disait pas en fait. On me mettait à un poste où c'était peut-être plus adapté à ma personnalité. J'étais pas capable parce que j'étais chrétien. Et au bout d'un moment, c'était fatigant. Et même des remarques, rigolant. Mais au bout d'un moment, on a juste envie de leur dire, vas-y, pars. Soit je pars, ou soit c'est toi qui pars, mais tu me casses tellement les pieds. Et Paul dit, tenez ferme, tenez bon. Vous êtes dans la bonne direction. Et c'est bon. Il les encourage en leur rappelant que Christ sera honoré en eux. Et eux honorés en Christ. Continuez comme ça. Vous êtes dans la bonne direction. Il les encourage aussi en parlant de leur amour qui progresse les uns pour les autres. Et je disais dans l'introduction que si vous lisez la première épître, ils parlent de leur amour déjà. Ils parlent que leur amour est déjà bien, même pas mal. Et ils continuent en disant, ils rajoutent une couche là. Votre amour va de progrès en progrès. Et continuez, persévérez. Et ce qui est important, dans une église quand même, l'amour pour les autres découle de notre amour de Christ. C'est ce qui permet que nous aimions. C'est ce qui permet que nous aimions des personnes qui, a priori, ne sont pas aimables. C'est l'amour de Dieu qui nous fait nous aimer les uns les autres. Et c'est le seul mobile, je dirais, le seul lien qui nous permet de nous aimer véritablement. C'est l'amour de Christ. Et Paul le remarque. Vous vous aimez les uns les autres et ça avance bien. C'est que votre foi est bonne quelque part. Et continuez dans cette direction. Continuez à persévérer avec Dieu. Et on peut remarquer, ou en tout cas on peut se dire, qu'un des indicateurs qui nous permet aussi de voir notre foi, c'est l'amour que nous portons les uns pour les autres. Et c'est ce que tout Philippe prêche. Vous avez vu qu'on avait commencé une autre série sur l'évangile de la première épître de Jean. Et donc Philippe, le prédicateur de cette église, finira la semaine prochaine. Et il en a parlé de cet amour les uns pour les autres. Et j'invite à réécouter si vous voulez aller plus loin. C'est l'amour de Christ qui nous pousse à pardonner 7 fois, 77 fois. Ce qu'on a vu dans les groupes de maison. C'est l'amour du Christ qui nous pousse à être généreux comme Christ est généreux envers nous. Et Paul le remarque. C'est chouette. Votre amour progresse. Continuez comme ça. Et il les rassure. Paul est à l'extérieur de la communauté. Il a un œil un peu plus objectif. Il a une vision un peu plus large. Il dit, vous progressez les amis. C'est chouette. Continuez comme ça. Tenez ferme. Restez ferme. Vous voyez que ce n'est pas une prière générique. Ce n'est pas un constat générique qu'il propose. Et il continue encore. Hein. Ce n'est pas fini. Il accumule. Il veut les encourager. Hein. Je ne sais pas si vous avez... C'est une parenthèse. À chaque fois, moi, j'ai appris ça dans le ministère. On m'a dit, si tu veux faire une remarque négative à quelqu'un, en tout cas, qui est plutôt pesante, fais-en 3 qui sont positives. Et là, Paul fait au moins 3 remarques positives. Après, vers la suite, il rappellera, votre conception, peut-être, des derniers jours ne sont pas les bonnes. Donc, on en va en reparler. Mais il commence par des choses assez positives. Il dit, vous êtes des modèles pour les chrétiens, pour les autres chrétiens de la Macédoine. Un Thessalonicien, la première lettre, il écrit, je vous lis, vous avez accueilli la parole au milieu de nombreuses épreuves, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et il continue, c'est assez fort. Et on n'a même pas besoin d'en parler. Tellement c'est remarquable. On remarque en effet à votre sujet quel accueil vous nous avez réservé, ce qui est important, et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. C'est chouette comme description, comme éloge qui fait de cette église, de ses frères. Vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle. Tenez ferme. Vous pensez peut-être être tout seul dans votre coin, mais non, vous êtes un modèle. Et tout le monde le sait, on n'a même pas besoin qu'on en parle. Moi, en tant qu'apôtre qui vais visiter ces personnes, je n'ai même pas besoin qu'on en parle. C'est eux-mêmes qui vont en parler avant que j'en parle. C'est formidable. Ils se détournent des idoles pour se tourner vers Dieu, pour le servir et attendre que Jésus revienne du ciel. Comme je disais tout à l'heure, hein, quand Paul dit que les chrétiens de Thessalonique se sont détournés des idoles, c'est tout un mode de vie qui devait changer dans une culture polythéiste. Ils devaient renoncer à des habitudes. Ils devaient renoncer à certaines fêtes civiles, voire religieuses, voire familiales. C'est toute une culture qu'ils devaient rejeter. Dans une culture où le groupe passe avant l'individu. Nous, ça peut nous paraître simple. Oui, mais c'est bon, tu es chrétien, c'est bon, tu peux t'extirper, tu peux t'écarter, ça va, tu fais ta vie. Mais à l'époque, le groupe était plus important que l'individu. Aujourd'hui, l'individu est plus important que le groupe. Et quand Paul dit « vous êtes détournés des idoles », les implications sont assez conséquentes. Et je trouve que quand Paul leur rappelle leur chemin, c'est encourageant. Vous avez parcouru du chemin. Tenez bon. Les chrétiens de Thessalonique sont des modèles pour les autres églises. Et Paul souhaite les encourager. Et je trouve que ça m'a posé des questions. Comment, quand une personne me dit « je suis nul, je vais tout arrêter », les gens au boulot, c'est tous des blaireaux. Quand on a une forte pression extérieure, quelle est votre réponse? Comment les encouragez-vous à tenir ferme? Réponse A. T'inquiète, ça va passer. Réponse B. Réponse A. On vous la joue un peu chrétien. Un peu comme Dieu dit au prophète Élie. mange, dors, et ça ira mieux après. Ou plutôt, voici ce que Dieu a déjà entrepris en toi. Je sais que c'est difficile. Je vois que c'est difficile et que c'est compliqué pour toi de vivre ces éléments. Mais Dieu est avec toi. Il a toujours été avec toi. Il le rassure. Et je trouve que c'est un modèle des fois quand on écoute un frère ou une sœur nous parler de ses difficultés. Dieu est avec toi. Regarde ton chemin. Continue comme ça. Paul remercie Dieu. Paul continue de les encourager en leur rappelant que Dieu va les libérer. Soyez confiants. C'est ce qui est la partie au milieu, blanche. Soyez confiants. Dans ces deux épîtres, on va revenir sur cette idée des derniers jours, des choses dernières. Si vous cherchez des infos là-dessus, on parle souvent d'eschatologie. C'est le mot un peu gros mot, qui veut dire les choses, la doctrine des choses dernières. Qu'elles soient individuelles, qu'est-ce qui va se passer pour moi quand je vais mourir, ou qu'elles soient un peu collectives, qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette ère, de la fin du monde. Voilà. Et on va revenir là-dessus, sur la deuxième prédication avec Eric. Voilà, donc ça, vous notez, hein, il faut revenir. Et comme vous ne savez pas quand c'est, vous allez être là tous les dimanches. Alors, Paul les rassure en leur rappelant que Dieu va les libérer. Dieu va être là. Dieu va vous donner du repos à vous qui souffrez. Et aux autres, le jugement. Le verset à part 5-6, alors j'ai enlevé le numéro de verset pour que ce soit plus lisible. C'est les deux premières phrases. Hein. Alors en fait, en plus, ce qui est un peu compliqué, je fais une parenthèse, c'est que le gros paragraphe blanc, normalement, c'est qu'une seule phrase. Donc des fois, la phrase est un peu rallonge, des fois un peu compliquée à comprendre. On a mis des points, on a essayé de mettre des points, mais ce n'est pas toujours évident. Paul les rassure. Dieu vous libérera. Les persécutions que vous subissez et la persévérance que vous mettez en œuvre pour suivre Christ manifestent et manifesteront que le jugement de Dieu est juste. En effet, ces personnes rejettent objectivement Dieu en vous persécutant à cause de son nom. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, pardon, et pour vous, celui que vous êtes sauvé. C'est ça. J'ai essayé de vous retranscrire ça en français courant, Michael, et ça donnerait ça. Ce que vous subissez montre, manifeste que vous êtes quelque part dans le bon chemin, persévérez. C'est pour eux le signe qui court à leur perte. Ils rejettent, ils me rejettent, rejettent Dieu de manière objective et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Dans cette partie, Paul ne veut pas dire comment ça va se passer spécifiquement. Ce qu'il veut surtout mettre en avant, c'est que justice sera faite, c'est qu'ils seront libérés et les encourager à continuer à regarder loin. Regardez loin, l'horizon. L'horizon d'être dans la présence de Dieu, à l'inverse des adversaires qui seront éloignés de la présence de Dieu. Car vous faites partie de ce groupe. C'est encourageant, quand tout va mal, de savoir qu'il y a une issue, de savoir qu'il y a une fin. Tenez ferme, leur dit Paul. Vous serez honorés en lui et lui en vous. Et enfin, il demande aussi à Dieu. Une fois qu'il a remercié Dieu pour ce qu'il a fait en eux, une fois qu'il leur a rappelé ce que Dieu fera dans le futur, il demande qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Je vais juste faire une parenthèse sur le être trouvé digne. Ça pourrait nous donner l'idée qu'il faut acquérir, qu'il faut gagner quelque chose, qu'on a des choses à faire. Mais Paul est plutôt en train de dire marcher d'une manière digne de l'Évangile, marcher d'une manière qui plaît à Dieu, marcher d'une manière qui honore Dieu. C'est ça que veut dire Paul. Ainsi le Seigneur sera honoré en vous. Qu'il vous trouve digne de l'appel, que vous fassiez ce qui lui honore. Et Carson, un théologien, il écrit « Dieu nous demande en fait de devenir ce que nous sommes. Dieu nous demande de devenir ce que nous sommes. Puisque nous sommes d'ores et déjà enfants de Dieu à cause de la grâce qu'il nous a manifestée en Christ, notre vie désormais doit refléter tout ce qu'implique ce statut. » Donc c'est ça, être trouvé digne. Devenir ce que nous sommes. Et dans le même temps, on a Paul qui nous rappelle que nous n'avons pas les capacités. Il demande que c'est Dieu qui fasse aboutir en nous tous les désirs de faire le bien et rendre parfaite l'œuvre que leur font entreprendre leur foi. Et c'est un effet de sa grâce, de sa générosité. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et on voit que la prière de Paul n'est pas de faire entrer Dieu dans les plans des hommes, mais de faire entrer les hommes dans les plans de Dieu. L'idée n'est pas de voir comment Dieu peut m'aider, mais de voir comment, par ce que je fais, je peux participer à l'œuvre de Dieu. Je peux entrer dans ses plans. C'est sa prière. Que par sa puissance, il fasse aboutir tous les désirs de faire le bien et de rendre parfaite l'œuvre que notre foi nous fait entreprendre. Ainsi, vous avez vu, c'est quelque chose qui revient souvent, ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ sera honoré en nous, dans les chrétiens thessaloniques. C'est assez fort. Dire que nous pouvons honorer Christ parce que nous faisons, ça va, c'est lui qui est Dieu. Donc c'est normal que des créatures honorent Dieu. Mais dire que Dieu sera honoré par nos vies, c'est assez fort. Je dirais que c'est... faut oser le dire. Et Paul ose dire que Christ sera honoré par nos vies quand il reviendra. C'est encourageant. On peut honorer quelque part Dieu. Enfin, on honore Dieu. Il est honoré en nous et il prend du plaisir avec nous. Le but de tout ce que Paul a raconté, c'est la gloire de Christ. Seulement sa gloire. Christ qui est tout. Christ qui est Dieu. Christ qui est venu nous rejoindre. Christ qui a tout créé avec le Père. Paul leur a dit aux Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Et dans son amour, nous sommes honorés en lui, en étant unis à lui. C'est encore un effet de sa grâce. Et bientôt, nous serons pleinement honorés dans sa présence. Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de leur dire ? Soyez encouragés. Si vous êtes bafoués parce que vous pratiquez les œuvres de Christ, soyez encouragés. C'est là une preuve que vous êtes à Christ. Tenez ferme, restez fidèles et continuez de veiller les uns sur les autres avec l'amour que Dieu nous donne, que Dieu vous donne. Voilà ce que Paul est en train de leur dire. Continuez comme ça. Et je prie que Dieu vous aide à tenir bon. Une fois qu'il aura dit ça, il va donner plein de choses pratiques. Mais ça, c'est pour la suite. En attendant, je propose un temps de silence. Je prierai.